Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonjour à tous, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie pour... sur Aligre FM, bien évidemment, pour une émission spéciale volontaire. Alors, une émission spéciale à plus d'un titre, parce que non seulement on va parler d'un sujet qu'on n'avait encore jamais traité jusqu'à maintenant, mais parce que c'est Ben qui l'a préparé. Et ça, c'est quand même super, j'en suis très fier. Bon,
tu n'as pas donné le thème encore.
Non, mais vas-y. Je te laissais le faire. Allez, vas-y, Ben.
Ben, le service civique écologique.
Voilà.
C'est ça un peu l'idée. Parce que, bon, puisqu'on est tous là, on s'est dit que, bon, les petits jeunes, avant que vous vous entraîniez pour aller au Groenland, par exemple, bon, il y aurait quand même des missions ici qu'il faudrait...
Surtout que ça existe développer. Depuis un certain temps, parce que depuis que tu m'as annoncé ce sujet, j'ai fait un petit peu...
Ton enquête.
J'ai googlisé le sujet.
Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé?
Eh bien, comment dire, ça avait été lancé par notre cher ami M. Macron, qui lance plein d'idées d'ailleurs. Mais dès 2022, c'est ça?
Ouais, mais au fond, il faudrait remonter à Edith Cresson et le service volontaire européen, dont vous pourrez parler d'ailleurs, si jamais ça vous
intéresse. Là, effectivement, ça nous ramène à l'autre siècle.
Non, mais à défaut de nous proposer de se battre pour un monde qui vaut la peine d'être vécu, M. Macron vient de nous proposer tout récemment de mettre le treillis.
Oui.
Et ça, c'est quand même... ça pose problème. Donc je me suis dit qu'ici, autour de cette table, on pouvait éventuellement imaginer qu'est-ce qu'on devrait... comment on devrait se préparer.
Alors c'est vrai qu'on peut difficilement parler de service civique ou volontaire sans penser au service militaire, hein, ça c'est évident. Ça a quand même marqué les esprits et puis quelquefois les jeunesses. Hein, et je ne vais pas vous faire mes souvenirs d'armée, mais bon.
Non, mais
j'en rêve encore.
S'il faut réarmer,
oui.
Ce qui est quand même un postulat, d'ailleurs contestable, n'est-ce pas Eric? Moi, je pense qu'il serait utile de mettre des soignants dans les hôpitaux, de mettre des enseignants dans les écoles. Enfin, je veux dire, on peut évoluer là-dessus en pensant à qu'est-ce que c'est que d'avoir
un lanceur d'alerte. Bon, je sens le sujet subversif. Bon, on va quand même commencer par respecter notre planning, nos chroniques, et puis après, on ouvrira le débat et la boîte à idées. Écoutez, on va d'abord lancer comme d'habitude, comme chaque semaine maintenant depuis...
Ta chronique.
Non, c'est la chronique de Théo, la bonne nouvelle de Théo. Donc, Armand, tu peux nous envoyer la bonne nouvelle de Théo ? Super.
Bonsoir tout le monde, moi c'est Théo et ma mission de ce soir ça va être de vous donner le sourire avec des bonnes nouvelles parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et ce soir je vous propose qu'on parte en Afrique pour parler de restauration et plus précisément de restauration de terres dégradées. En effet, le continent africain est l'un des plus exposés au réchauffement climatique et parmi ses conséquences les plus impactantes, il y a notamment la dégradation des terres, c'est-à-dire que des terres autrefois fertiles, cultivables et tout simplement vivables deviennent petit à petit désertiques et arides. Et ce phénomène il est assez global. Si c'est la région subsaharienne qui est la plus en proie à cette dégradation, elle est loin d'être la seule concernée et plusieurs pays d'Afrique de l'Est sont aussi confrontés à ce phénomène comme la Tanzanie ou le Kenya. Mais voilà, elle est là, la bonne nouvelle c'est que le continent n'est pas impuissant face à cette menace et que plusieurs initiatives sont déjà portées pour y répondre. La plus connue évidemment c'est la Grande Muraille Verte, un projet porté par des pays d'Afrique subsaharienne pour endiguer justement l'avancée du Sahara. Alors pour être tout à fait honnête, le projet accuse un retard important puisqu'il prévoit normalement la restauration de 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Or, l'avancement actuel du projet laisse à penser que ce cap sera assez difficile à tenir. Néanmoins, la Grande Muraille Verte a passé en 2025 le cap symbolique des 20 millions d'hectares restaurés. Alors c'est un chiffre un peu abstrait, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on avait restauré l'entièreté du Royaume-Uni, ce qui est quand même pas rien. Ou, si vous voulez un ordre d'idée plus local, c'est comme si on avait restauré 38 fois la Lozère. Voilà. On ne se représente pas bien la Lozère, mais ce chiffre me fait rire. Et puis, si cette initiative est de loin la plus massive de toutes, elle est loin d'être seule et à des échelons plus locaux, une multitude d'associations et de communautés portent des projets similaires. On parlait juste avant de l'Afrique de l'Est qui subit aussi ce phénomène. Et bien là-bas aussi, des actions titanesques sont portées. On peut notamment parler de l'association Just Dig It en formant les communautés locales à des pratiques agroécologiques qui a réussi à restaurer 475 000 hectares de terres dégradées, ce qui est conséquent puisque c'est pratiquement la superficie de la Lozère. Voilà, que le département en profite, ce soir ils sont à l'honneur, je sais pas pourquoi. Et puis au final, l'important c'est pas de savoir quel pays ou quelle association porte ces initiatives, qui restaure le plus, mais c'est de comprendre tous les bienfaits que ce genre d'initiative apporte à la nature et aux communautés locales. Évidemment, pour la nature, ce sont autant de terres encore vivables et accueillantes pour la biodiversité, et pour les communautés locales, c'est encore bien plus que ça. Au-delà du fait de pouvoir vivre sur des terres encore accueillantes, ce qui est déjà plutôt pratique, c'est surtout une source de revenus, d'économie et d'emploi pour ces communautés. On peut ainsi citer les centaines de groupements de femmes qui se sont créés pour rassembler et vendre les graines issues de ces terres restaurées, le fourrage que ça apporte au bétail des communautés nomades ou encore les fruits qui nourrissent ces communautés. Une fois encore, c'est la preuve que quand la nature se porte bien, c'est l'humain qui se porte bien et que les deux, au bout du compte, sont indissociables. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Bon, bah, écoutez, merci Théo. Et puis bah, pour tous les amis de la Lozère, sachez que c'est quand même le dernier département à avoir été équipé d'un feu rouge. Donc j'avais appris ça en faisant du stop, donc il y a bien longtemps.
Mais, ça n'a rien à voir, mais on est ravis voilà, de l'apprendre.
Voilà, puisque la Lozère était à l'honneur, il était important de parler de sa modernité. Ouais. Donc voilà, bon, ceci étant,
c'est important d'avoir des échelles de
temps et de...
Voilà. Que le Groenland, c'est 26 fois la Belgique.
Super.
Non, c'est bien de savoir.
Et oui, bon, outre le fait qu'on va sur ces histoires de
Ceinture verte
ou dynamique agricole, on reparlera bientôt de l'agriculture urbaine à Dakar, puisque les arènes de l'écologie vont animer un colloque sur le sujet à Villetaneuse le 23 et 24 février. D'accord. Voilà, donc 24 février, naturellement, comme chacun sait, le jour anniversaire de ma sœur. Mais, Véronique, puisque ce coup-ci, c'est toi qui animes l'émission, j'ai quand même à faire ma chronique sur les nouvelles de Rocolore.
Ouais, voilà.
Alors sachez qu'après deux ou trois mois de disparition, Madame Monique Barbu est revenue. Ça y est, on a un agenda clairement établi.
Et elle est toujours ministre de la transition énergétique.
On ne l'entend pas, mais elle est toujours bien là. J'ai même eu son attaché de presse, imaginez-vous, ce matin au téléphone, pour m'expliquer deux, trois détails de son agenda que je vais pouvoir vous parler. Alors bon, c'était plutôt calme cette semaine. Bon, Madame notre ministre, Monique Barbu, toujours aussi discrète, mais a fait sa tournée. Elle a discuté avec tous ses collègues de bureau, imaginez. Donc ça, c'est quand même pas mal. Elle a commencé par sa collègue Annie Genevard à l'agriculture. Il y a Françoise Gatel à l'aménagement. Et puis aussi, ses ministres délégués. Donc effectivement, c'était important que nous sachions qu'elle travaillait. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est les blagues. Il y a deux thèmes qui peuvent avoir un intérêt dans son agenda.
Sur le fond.
Ouais. Sur le fond. Donc on apprend qu'elle a rencontré Monsieur Melvin Bouva, ministre des Affaires étrangères de la République de
Suriname.
Attends, toi tu connais. Mais bon, je crois que tu es le seul autour de cette table. Donc je préjuge de rien, chers amis invités. Mais bon, moi je ne connaissais pas le ministre des Affaires étrangères du Suriname. Je connaissais à peine le Suriname d'ailleurs. Mais bon, c'est tes antécédents néerlandais, bien évidemment, parce que on le sait pas. Si nous on a un bout d'Amazonie avec la Guyane, eh ben
c'est notre voisin.
Voilà. C'est les voisins de Hollande avaient le Suriname. Bon, c'est indépendant depuis les années 70, me semble-t-il. Mais alors, voilà pourquoi j'ai passé un coup de fil au bureau de...
Et le fait que ça soit dans la sphère d'influence
Laisse-moi finir, et puis après tu commenteras. Mais donc, c'est pour ça que j'ai passé un coup de fil au cabinet. Pourquoi ? Quel était bien le sujet qu'on pouvait avoir avec les... avec le Suriname. Et bien, c'est effectivement, c'est autour du Maroni, des problèmes d'orpaillage, d'un côté comme de l'autre. Puis des problèmes, semble-t-il, de très mauvaise gestion des déchets, tout le monde met ça à la rivière, et effectivement, Madame la Ministre essaye de voir quelle pourrait... politique de bassin, on va dire, si on était chez nous dans un cadre bien administratif, quelle politique de bassin hydrographique pouvait se mettre en place. Bon, en tout cas, c'est quand même, c'est vrai que ça ne va pas faire tourner la Terre dans l'autre sens, mais c'est pas négligeable. Et puis l'autre sujet, eh ben écoutez, il y a Madame de Veolia qui naturellement était invitée. Alors est-ce que ça a un rapport, l'eau, le Maroni, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, parmi les grands noms de cette semaine, il y avait madame, alors elle a un nom imprononçable, Brashlianov, qui est la directrice générale de Veolia. Donc comme chacun sait, Veolia s'occupe de l'eau, des poubelles, et puis sûrement de beaucoup d'autres choses.
Gestion des déchets, quoi.
Oui, c'est ça, les poubelles, c'est les déchets. Mais bon, sujet qu'on traitera dans le cycle municipal qu'on va bientôt pouvoir ouvrir à partir du 11 février. Mais, et puis enfin, bon, jeudi, Madame la Ministre part en Charente-Maritime pour traiter la thématique de la biodiversité. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire que nous aussi, on préparait un cycle sur la biodiversité fin juin, début juillet pour célébrer, parce qu'on célèbre les anniversaires ici, le 50e anniversaire de la loi de la protection de la nature qui est le 10 juillet. Donc voilà, rendez-vous est pris. On aura peut-être un jour Madame la Ministre à ses micros. À vos places, chers amis invités, que Ben, tu vas pouvoir enfin nous présenter.
Non, mais c'est intéressant comme sujet.
Oui, merci.
Est-ce qu'on peut avoir des bénévoles, des volontaires qui s'intéresseraient à ce qui se passe du côté de l'assainissement? Est-ce que ça fait partie d'un service? Un service
mais
citoyen.
Présente-nous nos invités, cher ami.
Non, les invités, ils vont se présenter eux-mêmes. Ça, il n'y a pas de problème, parce qu'ils le feront sûrement mieux que moi. Tu veux commencer, Thibault?
Très bien.
Vas-y. Mathéo.
Allez. Alors, bonjour, moi je m'appelle Mathéo Monguillon, je suis invité par Eric du CCSC, le Comité de coordination du service civil, avec lequel je suis parti à Poitiers il y a un an pour les rencontres d'éducation populaire, les rencontres nationales d'éducation populaire.
Ouais.
Donc par ailleurs je suis étudiant en master de projet international en éducation populaire, en éducation tout court.
Plus ou moins populaire.
Et alors tu parlais de traitement de déchets,
on va peut-être finir un petit peu. Alors t'es volontaire, t'es quoi toi, t'es dans quel statut par rapport au thème de l'émission?
Ouais.
Je suis volontaire au CCSC et je suis aussi volontaire dans d'autres organismes avec le Corps européen de solidarité, avec qui on est parti dans divers projets en Europe, Turquie, en Estonie. Ouais.
Bah, avant de rentrer dans le détail des activités de chacun, on va peut-être finir de se présenter et puis dire ce que c'est que ce volontariat, quoi, ce statut.
Ouais, c'est un statut particulier. C'est vrai.
Moi, j'avais connu à une époque les objecteurs de conscience. C'était soit objecteur de conscience, soit bidas. Bon, moi, j'ai choisi bidas. Mais bon, et puis parce que je n'ai pas réussi à me faire réformer. Et donc, aujourd'hui, c'est les volontariats, vous nous expliquerez quel statut ça a. Et puis, bah, donc, Sony, tu es...
Sony, oui,
voilà,
vas-y.
À toi le micro.
Super, merci. Donc,
quel
bonsoir. Quel
sens de ta vie? Vas-y.
Je m'appelle Sony, j'ai 26 ans. Et en 2022, j'ai fait un service civique chez Unicité sur les thématiques écologiques. Ce n'était pas encore labellisé service civique écologique, mais ça, je pense qu'on en parlera juste après.
Oui, avec plaisir.
J'ai fait pas mal de missions, dont on parlera également après, sur une durée de 8 mois. Mais à la différence d'un service civique classique où on est un, voire deux dans une association, chez Unicité, c'est particulier, on fait ça majoritairement en équipe. On a aussi des versions par petits groupes ou en intermédiation chez d'autres associations. Mais voilà, moi j'étais dans une équipe de 24 jeunes, donc on œuvrait ensemble pour une cause commune, à savoir les thématiques environnementales qui nous tiennent à cœur. Et à la suite, j'ai également eu la chance pour le service civique écologique d'être salarié chez Unicité, d'être chargé de mission. Je sais que ça veut un peu tout et rien dire, chargé de mission, mais mon but, en gros, c'était de coordonner les missions de service civique écologique et les 1000 ambassadeurs qui étaient les premiers instigateurs de ce service civique écologique qui avait pour vocation de perdurer dans le futur. On en parlera également juste après, car ça, c'est un peu flou.
Et
aussi,
quand tu dis, Sonic, les thématiques environnementales, c'est lesquelles, par exemple?
Étant dans le milieu rural, donc j'ai fait mon... Rural, pas du tout, pardon. Étant justement pas en milieu rural, donc j'ai fait mon service civique à Paris, nous, c'était vraiment de la prévention. aller accompagner des familles pour sortir de la précarité énergétique, les aider à faire des économies d'énergie, comment avoir accès à des aides concrètes pour faire ces économies-là, des rénovations dans leur logement, aider aussi des personnes âgées sur les mêmes thématiques. Mais du coup, il y avait une bimission parce qu'on s'est rendu compte qu'on rompait aussi leur isolement. Parce que oui, on parle beaucoup d'écologie, mais ça passe énormément par le côté social. Voilà, et je m'en suis rendu compte pendant ces 8 mois de service civique, justement, de l'importance du social dans les thématiques écologiques.
Et si tu voulais faire plus que 8 mois, c'était possible ou pas?
Chez Unicité, pour ma part, c'était un service civique de 8 mois qu'on m'avait proposé. Mais il y a des services civiques qui existent jusqu'à 12 mois. D'ailleurs, mais même après un service civique, comme mon camarade qui a exprimé juste avant, on peut faire un corps européen de solidarité. Donc après un service civique en cumulé.
D'accord.
Bon, eh bien.
Alors.
Bonjour, moi c'est Clément.
Clément.
Je travaille chez Cité Unie France, donc qui est une association qui travaille avec les collectivités territoriales françaises qui s'engagent à l'étranger. Mais sinon, rien à voir avec Cité Unie France, mais j'ai fait un service civique également dans l'association Cartooning for Peace. Et donc voilà, une association de dessin de presse. J'ai fait ce service civique en 2021 et j'ai adoré cette expérience. Il y a plein de choses à en dire, plein de choses à exploiter aussi de cette expérience, je pense. Donc moi, c'était pas une organisation qui accueillait beaucoup de services civiques, j'étais le seul, mais c'est aussi parce que c'est une toute petite équipe, on était une dizaine, donc c'est à Paris, c'est basé à Paris, mais on était une dizaine. Et voilà, et donc moi, ce que je faisais...
Et tu dessines ?
Je dessine pas, non. Mais le dessin de presse, c'est vraiment une entrée, en fait, à plein de... une porte d'entrée vers plein de sujets, y compris l'écologie. Il y avait une exposition qui s'appelait « Dessine-moi l'écologie », justement, qui visait à sensibiliser notamment les jeunes dans les écoles sur les sujets écologiques.
Eh bien, tu partiras pas de l'émission sans qu'on t'ait parlé d'un autre projet, mais bon, on va anticiper. Et puis, il nous reste Eric Sapin.
Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai 59 ans. Mais j'ai fait un service civil de 2 ans, quand j'avais 22 ans.
Et... Civil ou civique ?
Civil.
Civil.
Un service civil pendant 2 ans. J'avais demandé une prolongation et puis le bureau du service national, parce qu'il y avait des prolongations pour le service militaire.
2 ans, ça ne te suffisait pas, toi ?
Non, parce que tous les combats que j'ai découverts en découvrant la vie associative, ça m'avait donné envie de continuer. Du coup, j'y ai consacré ma vie, en fait.
D'accord, parce que maintenant, tu continues d'une...
Je continue, oui.
Sous une autre manière, mais tu es toujours impliqué, très impliqué dans...
Oui.
Eric, tu peux même en dire plus. Tu as créé une association qui essayait de coordonner tout ça, non ?
Disons que j'ai beaucoup suivi toute l'évolution du service national jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai connu la naissance d'Unicité en 1996. lorsque Lisbeth Sheffield est venue en France, elle faisait sa thèse sur le guignol à Lyon et elle a eu une petite bourse pour lancer un projet associatif en France, donc en 1996, et elle a voulu créer un volontariat différent du service national de l'époque.
Parce que ça existait aux USA, je crois.
Oui, c'est ça, mais en même temps, alors moi je souligne toujours que le volontariat, il existe dans toutes les civilisations, sur tous les continents. C'est un réflexe humain des collectivités qui est formidable. Partout, on voit...
C'est comme si on avait inventé la générosité, quoi, un petit peu.
C'est ça, voilà. Donc la générosité, est vraiment, c'est dans l'ADN de l'être humain. On sait que même les dernières recherches fondamentales sur la vie sociale de l'être humain, la solidarité, ce que tu as décrit à l'instant, Sunny, sur les personnes âgées, la difficulté d'entrer dans la question d'écologie, tout en étant dans l'isolement. Donc, voilà. Enfin, bref, donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là, le lien avec la question de la paix aussi, le développement de la paix. C'est comme ça qu'on se connaît, Ben, cher Ben. Et donc, par ailleurs, moi, j'ai grandi en montagne, donc j'ai une sensibilité personnelle à la question de l'écologie qui fait que si je me suis tellement aussi intéressé au volontariat et à tout ce qu'on peut faire à travers les associations, c'est aussi parce que moi, j'ai connu dans les années 70 l'éco-anxiété. Parce que j'étais tombé sur des bouquins...
Déjà ? T'étais à l'avant-garde, vraiment.
J'étais tombé sur des bouquins effrayants sur les perspectives qui nous attendaient, quoi, en fait. Donc, je ne développerai pas, mais du coup, j'ai été confronté à ça. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de passer mon permis de conduire une automobile, etc.
Bon, écoutez, on va prendre une petite respiration musicale.
Je suis en mode avion, pays cache, on va se déplacer. Un peu de chance et un don chance. Aucune chance dans les équations. On fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations. Venir reprendre les diamants de Bokassa. J'suis trop tricks, man, j'pense qu'à ça. Des grosses briques tant t'es gros que ça. Gros poisson comme que franc. Jeunesse drôle, mais bon, c'était ma casse. Grosse coupure, magasin. Bébé trouve ça fantastique. Et j'ai tout mis dans tes mains, j'ai un plan plein de verre dans des sacs plastiques. Ne t'inquiète pas, je monétise. Ma baby veut que tu ailles dans ses piges. Ça fait longtemps qu'on maîtrise. Y'a les haters, la rue, puis y'a le fisc. Vu d'en haut, tout est pacifique. Tu hublots une vie magnifique. Un peu trop chacal ici. Ils en veulent mon rallye.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM, bien évidemment. Et Armand va nous désannoncer cette musique qu'il a choisie lui-même.
Le morceau s'appelle Diamant de Bokassa de Nino, feat. Tchakura.
D'accord. Ah, bah oui, je l'ai écouté en voiture, ça. Non, Nino, bon.
Nino et Tchakura.
Voilà, bon, ceci étant, c'est pas le sujet du soir.
Non.
Le sujet du soir, c'est le service civique.
Alors, écologique.
Écologique, oui. Ouais. Alors, ça existe depuis quand, Eric, puisque je crois que tu as un petit peu la mémoire de la question.
Ouais.
Parce qu'avant, moi, j'en étais resté, soit tu es objecteur de conscience, pistonné ou réformé, ou soit tu es au BIDAS, quoi, au service militaire. Bon.
Alors, oui, comme je disais dans l'interlude, là, il y avait quand même la coopération.
Oui.
Depuis la fin des colonisations, en fait, la décolonisation, il y a eu la création par Charles de Gaulle du service de la coopération en 1960, autour de 1963. Mmh. Donc là, il y a eu les premières formes aussi de service civil dans le cadre du service national. Et,
mais quand on disait service national, ça voulait dire surtout militaire, non ?
Oui, mais alors justement, même dans le code du service national, l'expression service national universel existait déjà, en fait. Donc ce qui a été ressorti ces dernières années, en fait, est...
À le SNU ?
Oui,
ah,
tout
oui,
à fait.
Oui.
Ça existait déjà parce qu'à travers universel, ça permettait d'englober toutes les formes, aussi bien militaires que civiles, la coopération, etc.
Mais bon, ça existait ou pas
Et notamment l'objection de conscience, donc les premières lois datent de 1963, après la guerre d'Algérie, parce que beaucoup de jeunes Français s'étaient insoumis pendant la guerre d'Algérie, et que le pouvoir, y compris le pouvoir militaire, préfère qu'il y ait des lois sur l'objection de conscience plutôt que d'avoir une utilisation massive de l'insoumission.
La répression, quoi. Voilà. Mais bon, pour en revenir quand même à ce statut de nos chers invités, nos trois invités ici qui se...
Et qui ne sont pas des objecteurs.
Voilà, qui ne sont pas des objecteurs de conscience, voilà. Ils ne sont pas en coopération.
Bien que, pardon de couper, mais c'est quelque chose de très important. La notion d'objection de conscience est d'abord et avant tout une notion, j'ai envie de dire, philosophique et anthropologique. C'est toute personne qui, à un moment ou à un autre, dit non.
Oui, c'est aussi la désobéissance civile.
Oui, ouais. C'est aussi les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui,
voilà, c'est ça.
Lanceurs d'alerte.
Mais je dirais que c'est un autre sujet qu'on pourra traiter. Là, la question, elle est simple. Depuis quand ça existe, votre statut, ou du moins la possibilité d'aller d'être volontaire.
Juste pour terminer sur la mise en perspective historique, vous vous souvenez qu'en 1996, Jacques Chirac, qui était président de la République, annonce la suspension, pas la suppression, du service militaire. Et simultanément,
il avait déjà été réduit à 10 mois
Et il annonce simultanément la création, quasiment dans la même phrase, c'était tout à fait étonnant pour nous qui, en tant que spécialistes du sujet, quasiment dans la même phrase, il annonce la création d'un grand service civil. Or, ce grand service civil n'a pas vu le jour.
On l'a jamais vu.
Les années ont passé. Ouais. Le gouvernement Jospin a mis en place les emplois jeunes, dont vous avez peut-être entendu parler.
Oui.
Donc, ils ont récupéré une partie des projets qui étaient dans le projet d'un grand service civil pour en faire de l'emploi, parce que c'est vrai qu'à gauche, en général, on préfère développer l'emploi salarié pour les jeunes, plutôt que du volontariat qui est vécu comme une forme de précarité. Et ensuite, les premiers textes de réforme du service national pour créer les formes civiles, ça remonte au début des années 2000. C'est au moment où le ministère des Affaires étrangères, et ça, Unicité en est témoin, au moment où le ministère des Affaires étrangères avait besoin de remplacer les derniers appelés de la coopération en administration par du volontariat. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une première forme, mais sans financement. Je me souviens d'une réunion ministérielle, on nous disait « Bon, on va vous créer un statut, mais il n'y aura pas d'argent. Donc, les jeunes, engagez-vous, mais on a un État qui est toujours très, 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 très avare, en fait, pour soutenir l'engagement d'intérêt général des jeunes, ce que je trouve absolument terrible, moi, personnellement. Et c'est Martin Hirsch qui est de manière assez remarquable, en 2009-2010, quand il était au commissaire à la jeunesse.
Donc sous
Sarkozy.
Sous Sarkozy.
Mais Martin Hirsch, qui gardait aussi ses distances à travers le titre de haut commissaire, c'était sa volonté aussi. Il a mené de manière tout à fait remarquable. Pour un conseiller d'État, il s'est vraiment investi, il a vraiment porté le sujet. Et il a créé le service civique.
Ok.
Ah, c'est grâce à lui, alors.
Oui, tout à fait.
Bon, ok, donc dans les années 2010, on va dire, ce service civique existe. Alors la question est simple, vous étiez payé quand vous étiez volontaire ou pas?
Payé, c'est pas le bon terme, on dit. Indemnisé.
Rémunéré.
Alors vas-y, combien?
Indemnisé. Moi je l'ai fait en 2022, c'était 609 je crois. Aujourd'hui je crois qu'on est autour de 620, peut-être légèrement plus.
Pareil, 609 en 2021, donc un an avant, donc...
D'accord. Et
pas de quoi vivre.
Et Mathéo.
Et alors, Mathéo. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé finir, mais je fais mon service civique le mois prochain au Kenya et ce sera 620 € moins l'indemnité de logement.
Donc, moins l'indemnité de logement.
Donc c'est à peu près 111 € l'indemnité de logement. Donc je toucherai 500 quelque chose.
Ok.
Et tu vas faire quoi au Kenya?
Et bien justement, on parlait de traitement des déchets. Ouais. Je vais piloter le renouvellement d'un partenariat entre une association toulousaine, DigiGène, et une asso kenyane, Bright Future Kenya, sur une recyclerie plastique à Kisumu, la troisième ville du pays.
Ah, voilà. Super. Et moi, j'avais une autre question bête, hein, parce que bon, c'est, je m'en préoccupe.
Naïf, tu veux dire.
Oui, naïf. Je me suis aperçu l'autre fois que l'armée n'avait pas compté mes 4 trimestres de bidasse en Allemagne.
Pour ta retraite.
Pour ma retraite. Donc, il faut téléphoner à Pau, ça. Voilà, c'est ça. Bon, on a peur de tomber sur un ancien Premier ministre à Pau. Mais bon, on peut y échapper. Et j'ai réussi à récupérer mes 4 trimestres. Mais la question toute bête, c'est vous, quand on est volontaire, on a le droit de ces trimestres de retraite ou pas?
Oui, est-ce que c'est comptabilisé?
Je vous rassure, oui, c'est bien comptabilisé pour la retraite, les mois d'engagement.
Bon, ça c'est important quand même. Hein, Eric, il faut savoir compter, y compris les choses, parce qu'on ne va pas attendre 30 ans. Bon. Passons maintenant
Et est-ce que les femmes aussi sont incluses dans ce recrutement?
Absolument. Bien sûr.
Il y a d'ailleurs plus de femmes qui font un service civique que d'hommes, si on regarde juste les statistiques.
Ah, donc on n'est pas représentatif ce soir, alors.
Non, parce que...
Mais bon.
Il y a eu récemment, en Suisse, il y a eu un référendum, justement, sur cette question-là, pour un nouveau service citoyen. Et la grande question, c'était, est-ce que les femmes pourront y participer? Parce que, jusqu'à maintenant, l'armée de milice suisse, 3 semaines par an, ça rigole pas, mais ce n'est
que des mecs.
Exclusivement pour les mecs. Hein.
Bon, voilà. Et alors, la réponse?
La réponse au référendum.
Oui.
Non, c'est terminé.
Toujours pas de femmes. Ils sont terribles.
Mais par contre, on a le droit, si on refuse le service national, le service militaire, on a le droit d'aller en prison.
Ah.
Et donc, tous les soirs, on va en prison.
Bon.
Non, il n'y a que vous, ça fait rire. Mais...
C'est un autre monde.
C'est un autre monde. Mais c'est vrai. Et chaque pays, c'est un autre monde.
Si
parce
on veut en revenir.
Aux Pays-Bas, le service militaire, il y a des syndicats. Les syndicats sont reconnus et tu as le droit même de faire grève.
Générale,
et tu as même le droit de faire grève pour certaines opérations militaires. C'est quand même fabuleux.
Et ce sont des syndicats de militaires aujourd'hui qui sont réunis. Ils sont réunis au niveau européen dans une organisation qui s'appelle Euromil, qui demande à ce que tous les militaires de carrière aient un droit à l'objection de conscience. Ça, c'est très important parce que c'est un verrou moral. C'est-à-dire que
ça veut dire quoi quand tu es militaire et que tu deviens objecteur de conscience?
Eh bien, ça veut dire que quand tu es militaire...
C'est un peu trop tard, non?
Non. Justement, c'est très important parce que dans le cadre d'une carrière militaire, il y a des moments... où tu peux te retrouver dans une situation où tes gradés, tes supérieurs vont te faire des choses pas très jolies.
D'accord. Or, comme le respect de l'ordre et de la hiérarchie est vraiment très très fort dans une armée pour tout un tas de raisons, eh bien, le Code général de discipline des armées précise lui-même que en cas d'ordre manifestement illégal, contraire aux conventions internationales, etc. Le problème, c'est qu'il faut avoir fait des études de droit pour l'apprécier. Eh bien, on a même, le soldat a même le devoir de désobéissance. Et ça, c'est issu du procès de Nuremberg. Devoir de désobéissance. Ouais. C'est pas rien. Hein, c'est pas ouais, rien. Ouais.
Aligre FM 93.1.
D'accord, donc grosso modo, on a le droit de sortir un joker en disant non, je ne tire pas sur, sur les femmes et les enfants, par exemple.
Ok. Je ne viole pas pendant ma permission parce que les gradés qui sont avec moi m'entraînent et qu'il y a des rapports d'hierarchie, etc.
Ok, bah écoute, c'est quand même important de le savoir, mais on va peut-être revenir à l'écologie du service.
Exactement.
Parce que sinon, on est dans une boutique,
les différents apprentissages qui sont possibles. Par exemple, il y en a combien d'entre vous ici autour de cette table qui savent planter des choux?
Pour ma part, c'est marrant parce que je suis celui qui a fait mon service civique à Paris, mais j'ai fait aussi du maraîchage urbain. Ferme urbaine à Paris, sur les toits d'une école élémentaire dans le 13e arrondissement, juste à côté d'ici.
Dans le cadre de ton service.
Dans le cadre de mon service civique. Tous les lundis, je plantais des choux, des carottes, des navets.
Tu ne plantais pas les carottes quand même?
Je plantais les graines.
Ah, tu les semais les graines.
Attention. Ça fait longtemps, je perds déjà mon vocabulaire. Comme quoi, parisien, ça me réussit pas.
Cette question d'apprentissage, ça m'a beaucoup travaillé avant l'émission. Je me suis dit, mais au fond, par exemple, tous les préparatifs dont on a besoin en cas de menaces, qui ne sont pas forcément des menaces militaires. Est-ce qu'on est préparé,
par exemple?
Tu vois, tu peux te retrouver, toi, par exemple, François, tu peux te retrouver à côté d'une centrale nucléaire. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire quand ça disjoncte là-bas?
Ah ben, faut que je prenne mon cachet d'iode, mais bon.
Oui, mais il y a
pas. Mais
bon,
on l'a pas donné. Ah, mais bon, ça, tu nous en parleras. Mais bon, moi je suis basique. Les volontaires au service civique, c'est combien de divisions, quoi? C'est combien de personnes?
C'est vrai.
Ça dépend, on a deux manières de compter. Concrètement, pour les chiffres normaux, on va dire, on est sur 90 000 jeunes engagés par an.
En service civique,
chaque année. 90 000. Sur une année civile. Oui.
Ouais. C'est pas rien, quand même.
Bah non.
Je sais pas, par rapport à une génération.
700 000
maintenant
en baisse, oui.
D'accord, donc c'est à peu près 10%.
C'est à peu près 10%. Et j'ai un chiffre intéressant, à La Réunion, on a près sur un tiers de jeunes qui s'engagent en service civique. Voilà. C'est un chiffre assez intéressant, je trouve.
Ouais, absolument.
Ça leur permet de venir en métropole aussi un peu, ou
il y en a aussi qui viennent en métropole, mais c'est beaucoup plus pour faire des études. Ça peut être en césure avant de reprendre leurs études que des jeunes de La Réunion font un service civique ici, justement. Prendre de l'expérience, et parfois ça les oriente vers un choix d'études. Donc c'est hyper intéressant et enrichissant pour eux.
Donc ça peut être aussi un tremplin pour un peu voir une ouverture sur ça peut être
le monde,
et ça peut être une opportunité, quoi.
C'est carrément un tremplin, et je pense que là, pour le coup, nos autres invités peuvent très bien en parler.
Moi je suis complètement d'accord, c'est complètement un tremplin. Et en fait, je trouve que on parlait du nombre de services civiques, et moi j'aimerais bien qu'il soit plus important, ce nombre là parce que le service civique, je trouve qu'il souffre d'une réputation qui est un peu considéré comme péjoratif, la solution pour ceux qui sont en décrochage scolaire, par exemple. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Et je trouve que
faire du coloriage.
Non, mais mais après, enfin, je trouve
il y en a beaucoup qui croient que Cartoon is for Peace, c'est une blague.
Mais après, les gens qui travaillent à Cartoon is for Peace ne sont pas dessinateurs. Donc ça peut ouvrir des vocations, surtout à une période où il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, notamment après le bac.
C'est quand le bon moment de faire son service? C'est après le bac ou au contraire après avoir fait un peu d'études, je sais pas moi, un master, je sais plus comment vous comptez maintenant.
Il y a licence, master, moi je pense que juste après le bac c'est parfait, parce que ça permet d'avoir un regard plus pratique, alors que par rapport au lycée où c'est très général, mais pour ce qui est de ce que tu veux faire plus tard, c'est quand même compliqué de se projeter, et il y a Parcoursup qui arrive très vite, donc c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Et je trouve que le service civique a un rôle à jouer dans la découverte de plein d'univers. Tu parlais des rencontres, de l'effet social que ça peut avoir,
permis de conduire.
mais Donc je trouve que ça a vraiment un rôle à jouer dans l'orientation.
Mais ceci étant, tu as le même problème d'orientation, parce que quand tu sors du lycée, faire service civique, ok, mais dans quelle branche? Parce que manifestement, il y a 25 000 branches.
Oui, mais après, le service civique te permet de choisir une branche et ça permet de voir si c'est ça ce que tu veux faire ou pas, d'être un peu plus...
Oui, mais alors, tu t'engages quand même pour un an, donc si tu t'es planté...
Pas forcément un an, moi j'ai fait 6 mois de service civique. 6 mois de service civique.
Ouais. J'ai fait 8 mois, et après il y a des structures comme une cité où on peut faire des services civiques en équipe sur divers thématiques, et là ça permet, quand on est un peu perdu, qu'on n'a pas un choix précis, de découvrir plusieurs thématiques à la fois.
Ah, d'accord.
Moi j'étais engagé dans 3 associations différentes par exemple, du coup j'ai vu beaucoup de choses.
Et tu peux rallonger après ou pas?
Ça par contre non, les modalités sont très claires. Quand tu t'engages pour 8 mois, tu signes un contrat, c'est comme un contrat de travail, c'est un contrat officiel, on le signe et on est engagé pour la durée.
Et puis c'est unique, le service civique.
Le salaire, il faudrait pas abuser quand même.
L'indemnité, je préfère. C'est très
et puis le service civique, c'est une fois dans une vie, c'est pas deux fois. Donc t'as pas la possibilité
de le redoubler.
Tu peux pas le redoubler, tu peux pas retester quelque chose que tu aurais vu pendant ton service civique qui pourrait te plaire. Je trouve que c'est un peu dommage ça.
Mais je voudrais revenir sur la question de comment est-ce que l'État est capable de soutenir ou pas ce genre d'initiative et pourquoi ça ne se généralise pas ou pourquoi il n'y a pas de fric pour ça. Moi j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus.
Ça, c'est une très, 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 très bonne question. Quand j'ai travaillé à Unicité, j'ai eu la chance d'échanger avec des politiques à ces sujets-là. Ouais. La réponse bateau qui nous a à chaque fois, c'est si on ne remplit pas les missions, on ne débloque pas plus de fonds, en gros. Sauf qu'il y a des toutes petites structures qui sont incapables de remplir des missions. Il y a même des structures étatiques, des petites mairies qui ne sont pas capables d'engager de services civiques parce qu'il y a très peu de gens dans leur petite commune et que la faible indemnité fait que certains ne peuvent pas s'engager pour des raisons personnelles. Donc, ils ne remplissent pas leurs missions. Et donc, l'État dit « Ah bah, vous voyez, on n'a pas rempli nos missions, donc on ne peut pas en débloquer de nouvelles. » C'est un peu ça qui bloque, honnêtement.
Alors, comment vous êtes arrivé à être, volontaire, à choisir cette voie? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit super connu quand même.
Le service civique, j'en avais entendu parler il y a un petit moment au début de mon lycée, mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant. J'avais toujours comme perspective qu'un jour je partirais en service civique.
C'est qui t'en a parlé? Tes profs?
Je saurais pas vous dire. Est-ce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux? Est-ce que je l'ai vu par une conseillère d'orientation? Je saurais pas vous dire. Sûrement les réseaux. Je pense que c'est une voie qui marche bien pour apprendre aux gens comment faire le service civique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je le ferais un moment, quoi. Donc ça arrive maintenant, mais ça pouvait être il y a 3 ans, ça pourrait être dans jusqu'à, je sais plus quel âge c'est.
26.
Bon, si un grand-père ou un père comme nous avait envie, parce que bon, les réseaux sociaux, on va pas non plus perdre notre temps indéfiniment là-dessus, si on veut utiliser un vieil outil comme Google, qu'est-ce qu'il faut taper pour identifier
Service civique.
Un site internet très bien conçu.
Qui est vachement bien foutu.
Ils ont même un petit quiz, on parlait tout à l'heure de la recherche de missions, vous répondez à ce quiz et on vous oriente vers des missions qui pourraient vous correspondre, c'est très bien fait.
Ouais.
Ok.
Et pour ceux qui veulent partir à l'international, il y a même la carte est super bien faite parce qu'elle est vraiment interactive. On peut regarder partout sur le globe et voir toutes les offres de services civiques qui existent. Donc il y a même pas mal de missions à l'étranger.
Et là, c'est servicescivique.gouv, c'est ça?
Oui.
Et dans les écoles de commerce, on est au courant de la chose, Sabine?
Ah.
Je vous avoue, non, pas trop.
Ah bon?
Moi, personnellement, dans mon école de commerce, non. Après, même à l'IUT de Sceaux, qui est un établissement public, j'en ai jamais entendu parler, je vous avoue. Donc, non, c'est la première fois que j'entends ça.
Et puis ton père, donc, ça avait même problème... pas que ça existait.
Non, mais il y a un problème d'info, c'est vrai, il y a un problème d'info.
Et pourtant, c'est dommage, hein, parce que via les réseaux sociaux, on a énormément d'influence sur les prochaines générations, et puis même notre génération, la génération Z. Et c'est vrai que on n'en entend pas du tout parler, finalement, alors que la puissance des réseaux est énorme. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage.
Alors est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas envie de promouvoir ce genre d'alternative?
Eh bien, il promeut plutôt le service militaire. C'est vrai que ça,
j'avais supposé. C'est marrant.
Entendu parler, et puis moi-même, je voulais m'engager dans l'armée de terre.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis?
On m'a refusé.
Tu as refusé?
Oui, on m'a refusé pour ma réserve militaire. Mais c'est vrai que maintenant,
pourquoi
dans les rues...
vous ne correspondiez pas aux critères qu'il fallait
Non, je pense pas en tant que personne. Mais déjà, même dans mes valeurs et mon idéologie, etc., je pense que ça colle pas trop. Même peut-être pas du tout, mais c'est pour ça que je voulais m'engager. C'était pour voir réellement ce que ça valait, quoi. Parce que bon, on entend beaucoup de personnes parler.
Ouais, faire
même
de l'entrisme.
Les anciennes générations, on a leur... leur ressenti, mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment m'engager pour me faire mon propre avis,
ouais,
en fin de compte.
Et ils vous ont pas permis de faire de l'entrisme ?
Non, du tout. En fait, je pense ce qui a pas du tout collé aussi, c'est au niveau des disponibilités. C'est vrai que la réserve militaire, c'est 60 jours minimum sur un contrat de 3 ou 5 ans. Moi, j'avais choisi un contrat de 3 ans, mais en fait, j'étais pas assez dispo parce que là, actuellement, je suis en alternance. Donc, je jongle entre l'école, le travail, mais mon alternance se termine en août. Et donc, je voulais profiter de ce temps-là pour justement faire mon service, enfin, ma réserve militaire. Sauf que j'aimerais bien aussi voyager. Forcément, je n'ai aucune perspective et évolution dans quelconque métier si je ne parle pas anglais. Donc, c'était assez compliqué. Fallait faire un choix et je pense que je n'avais pas assez de disponibilité pour justement... faire cette réserve, quoi. Voilà.
L'armée t'a refusé, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais bon.
Comme quoi, faut apprendre l'anglais.
Oui.
Voilà.
Très important,
oui. Bon, ceci étant, le service civique peut offrir des possibilités à l'international. Qui c'est qui veut nous vendre la chose, Mathéo? Je me trompe pas, oui, c'est Mathéo.
Je suis preneuse.
Ouais.
Bon, alors,
ça m'intéresse vrai. Aussi.
Moi, j'ai quand même l'impression. J'ai pas essayé de postuler.
T'as passé l'âge, Ben.
J'ai pas postulé à mon service civique par l'intermédiaire du site, même s'il est très bien fait. C'est vrai que les contacts, ça marche toujours mieux, malheureusement. Ça reste quelque chose. On est quand même dans un entre-soi. Il y a un petit entrisme, justement, sur le service civique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pubs pour le service militaire sur tous les réseaux, jusque sur Tinder.
Ouais, ce que tu veux dire.
Ah bon ?
Ah ! Ouais, incroyable.
Nous ne regardons jamais Tinder. Ouais.
Et puis Macron, il fait des annonces pour le service militaire, il n'en fait jamais pour le service civique.
Alors que ça fait l'unanimité chez pratiquement tous les partis politiques, à l'Assemblée nationale, tout le monde fait le bon discours de ça marche très bien.
Mais ça ne marche pas très bien. C'est ça que tu essaies de nous expliquer.
Non, mais là, ce que vous voulez savoir, c'était sur l'international.
Sur l'international.
Ne mélangeons pas toutes les questions.
C'est vrai que l'international, à voir sur le site comment ça peut se passer, de mon côté, c'est souvent un coup de bol, hein, je pense aussi, l'international. C'est quand même des perles un peu rares. C'est quand même sympa.
Ah, donc c'est pas accessible pour tout le monde, on peut pas justement... je me rapproche. Je disais, le service civique, du coup, que vous avez fait, il est pas accessible forcément. Imaginons, moi, personnellement, je veux y faire un service civique spécialement à l'international. Peu importe le pays, mais pas rester en France. Est-ce que c'est possible pour moi d'aller directement dans un pays étranger ou je dois d'abord passer par la France pour pouvoir ensuite aller à l'étranger ?
Voilà une bonne question.
Des amis à moi que j'ai entendus qui ont fait un service civique international, beaucoup répondent qu'ils ont postulé à beaucoup, ils ont été pris parfois, ils ont beaucoup postulé, il y a beaucoup, beaucoup de missions. Après, je pense que mes camarades peuvent me contredire sur l'accessibilité.
Non, ce que je veux dire, c'est surtout qu'il y a souvent une, deux places. Moi, j'en ai vu pas mal, il y a très, très peu de places. Et quand on voit le nombre de candidatures, je pense qu'effectivement, ça rend la chose très compliquée. Parfois, on peut ajouter une petite lettre de motivation, c'est pas obligatoire. Normalement, d'ailleurs, il n'y a aucune condition. Il y a seule la motivation compte pour être engagé en service civique. Mais pareil, je pense qu'en service international, il doit y avoir des choses qui jouent. Hein. Si quelqu'un ajoute une petite lettre de motivation, même si ce n'est pas obligatoire, peut-être que ça peut marquer des points. Peut-être que le réseau, comme tu le dis, malheureusement, voilà, l'international, on n'a pas la main mise dessus. Mais par contre, pour ce qui est du service civique en France, on est tous sur un même pied d'égalité, comme je disais, seule la motivation compte, nom, prénom, adresse, mail, et tu peux candidater, quoi.
Ok, ouais, donc c'est très niche, on va dire, d'aller à l'étranger, c'est très rare, puis c'est pas trop accessible, mais par contre, en France, c'est seulement en région parisienne, ou c'est vraiment dans toute la France?
Ah non, pour le coup, dans toute la France, même dans des toutes petites communes, il y a des toutes petites mairies qui prennent des services civiques, par exemple, vraiment, en fait, n'importe quelle association peut prendre un jeune en service civique, finalement. Alors, c'est l'agrément, évidemment.
À ce propos, j'ai une annonce à faire.
Tu vas t'engager ?
Non, j'ai trouvé dans ma liste de diffusion de GéoTamTam, donc c'est une liste de diffusion pour les géographes sur Internet, une annonce sur deux places de service civique dans les Pyrénées pour photographier les ours et pour et travailler avec un labo de recherche sur le pastoralisme. Alors, si vous avez envie d'aller dans les Pyrénées, alors quand je dis photographier les ours, c'est plutôt d'aller relever les boîtes de photos automatiques, les pièges à photos, mais bon, c'est ce que j'en ai compris. Ceci étant, ça peut être passionnant d'aller faire un boulot comme ça.
Et donc, ça marche avec par l'intermédiaire d'une ONG environnementale, avec la LPO.
Tout à fait, j'ai oublié le nom, mais... comment dire, c'est avec la fac de Toulouse, c'est l'association Pastoralisme dans les Pyrénées ou un truc dans ce genre.
D'accord.
Si des gens sont intéressés, oui, qu'ils nous fassent signe, qu'ils téléphonent au standard.
Hein, Eric veut absolument.
Au standard d'Ali.
En plus, il est montagnard, lui.
Probablement des Alpes. Donc, bon, ceci étant, je t'en prie, ça me dit.
J'avais une petite question par rapport au service civique. Vous, en fait, vous êtes lancé dedans en ayant des compétences, en ayant un but précis, ou alors vraiment vous êtes allé dans la découverte. Typiquement, là, vous parlez du service civique qui commence à partir des 18 ans.
Ouais, ou un peu avant peut-être.
Avant, ouais, 16 ans, et qui se termine à 26.
30 ans quand on est en situation de handicap.
Ok, ça marche. Imaginons. Moi, je fais des études. Là, actuellement, je fais des études dans le commerce. Donc, c'est cool, c'est passionnant, voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.
Mais je veux faire un service civique qui n'a aucun rapport avec le commerce. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je dois avoir des compétences bien précises?
Je vais aller très vite. Après, je laisse la parole à mes camarades pour ne pas monopoliser la parole. Mais non, comme je dis, seule la motivation compte vraiment. Moi, pour le coup, j'avais un bac en sciences et techniques de laboratoire. 5 ans après, je fais un service civique. Alors que j'avais que fait des petits boulots alimentaires, vraiment de la livraison, de la vente, de la caisse, enfin vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Et j'ai été pris en service civique sur les thématiques environnementales.
Trop bien.
Donc vraiment, seule la motivation compte vraiment.
On les semer des carottes. Ok, sur les toits
Mathéo,
de Paris.
Toi aussi, tu veux dire quelque chose là-dessus?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs conditions dans le texte pour le service civique, pour l'appliquer. Il y a besoin que ce ne soit pas des missions indispensables à l'association, et il y a besoin que ce soit sans compétences nécessaires.
Okay.
Voilà, pour rendre le truc le plus accessible possible, pour qu'en y allant, on n'ait pas besoin d'avoir des compétences.
Est-ce que les missions qu'on nous confie, on considère qu'elles ont un sens? Parce qu'au final, c'est un peu ça qu'on cherche, dont j'imagine quand on fait un engagement, c'est pour donner du sens à une action. Quand tu nous dis que ça ne doit pas être essentiel à la vie de l'association, c'est-à-dire que...
Dans le sens pas indispensable. L'association doit pouvoir vivre sans la personne en mission de service civique.
Il ne faut pas qu'elle dépende du travail dissimulé. Quoi.
Voilà. Okay. Parce que malheureusement, il y a une critique sur le service civique, l'utilisation du travail dissimulé qui existe. J'avais une professeure de sociologie du travail qui critiquait pas mal le service civique en disant que parfois...
C'était des petits boulots, quoi.
Comme un nouveau travail précaire, comme l'ubérisation, comme travailler à son propre compte. Parce que c'est vrai que certains... Il y a l'administration publique qui s'en sert malheureusement comme une tentative de payer moins cher des postes qu'elle payait avant en temps plein. Donc ça peut être comme ça aussi.
Et c'est pour ça que maintenant, en tant que service civique, on est beaucoup formé à ça, à être conscient et à pouvoir déceler un travail dissimulé. On peut signaler des annonces qu'on repérait sur le site de l'Ordre Service Civique. Même vous envoyez une, n'hésitez pas à la signaler. Et si vous vivez un service civique qui vous semble être un travail dissimulé, vous pouvez contacter l'agent de service civique, ils seront toujours là pour vous répondre.
Waouh. Eric.
J'aimerais insister sur quelque chose pour te répondre. Alors, d'une part, effectivement, comme ça a été dit, alors c'est même écrit dans la loi, le service civique doit respecter la mixité sociale. Alors, ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une même proportion de diplômés que de non-diplômés, etc. Ce que fait très très bien Unicité, parce qu'Unicité, en créant des groupes, fait attention aussi à vraiment respecter cette diversité des profils, des parcours des uns et des autres. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il s'agit bien d'un engagement citoyen. Or, l'engagement citoyen aujourd'hui est très dévalorisé, puisque effectivement, être citoyen, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte de voter?
On vote et puis on a.
Qu'est-ce que ça rapporte de faire preuve de civisme? On est plutôt dans une société aujourd'hui qui nous encourage à faire en permanence des arbitrages. Qu'est-ce que ça va me rapporter le plus possible? Hein. Donc, on est dans ce sens-là, c'est un peu à contre-courant d'un esprit général, ce qui pour moi explique la difficulté. D'un côté, il y a une forme d'injonction contradictoire. On a une classe politique qui dit c'est très bien, les jeunes, engagez-vous. Hein. Et puis en même temps, il y a la pression familiale. C'est bien d'avoir certains diplômes pour avoir un meilleur salaire, pour avoir une meilleure situation patrimoniale, etc. Donc, il y a tout ça qui joue. Et ça travaille le corps social. Et dans ce sens-là, c'est très important de bien préparer quand on peut Et c'est à nous aussi, les associations, de créer les conditions pour le faire, bien préparer son engagement de service civique. Prendre le temps de réfléchir.
Donc, ce serait quoi, une formation à l'éco-citoyenneté ou quoi ?
Pour moi, clairement, c'est clair qu'il devrait y avoir des préparations au service civique qui devraient être offertes. Parce que beaucoup de jeunes se retrouvent devant le site de l'agence du service civique. C'est un océan.
Ben oui, c'est vrai.
Milliers et des milliers et des milliers de missions. Donc, en soi, c'est assez décourageant. Ensuite, la seule vraie solution, c'est de rencontrer les gens. Et ce n'est pas plus mal. Hein, parce que pour créer un rapport de confiance, c'est pas plus mal. Il y a de très bonnes associations, il y a de très mauvaises associations. Il y a de très bonnes mairies, il y a de très mauvaises mairies. Il y a de très bonnes administrations, il y a de très mauvaises. Et puis ça dépend aussi des gens vraiment à l'intérieur, en fait. Hein. Donc les rencontrer, voir quelle est l'ambiance, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on est bien accueilli, est-ce qu'on peut trouver sa place.
Il n'y a pas de journée du service civique, un truc, une espèce de porte ouverte.
Ouais,
je
serait bien d'avoir une sorte de formation mais théorique.
Mais on va d'abord lancer la musique, d'accord. Et puis après on revient sur cette question, quelle promotion pour le service civique Qu'est-ce que Radio Aligre et les arènes de l'écologie peuvent faire sur le sujet ? Bien évidemment. Vas-y, Armand.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible. Ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large je lâche ma rage et mes larmes j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu j'écris mon récit. Terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne. Je me délivre, éternelle pèlerine. Digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes. À l'heure où leur monde s'engloutit, sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire. En quête de ce dont juste la mal souvenir, liberté mon fou rire. Elle dicte ma voix, je combats l'inertie. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, trop remplie. Mon glacial frotte banquise, peut-être instable, pas tant pis. En vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres de train. Je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion. Una vita loca, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple. Être libre ou périr comme un filet d'eau pure. Sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, en l'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens, comme quoi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher, jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent.
Alors, c'était qui ces filles du vent, Armand ?
C'est Kenya Kana.
Ah ouais, bon, c'était, j'avais cru entendre déjà ça, ça me plaisait bien. Bon, bah, tu nous la remettras. On en était où ? Ah oui, à discuter, donc on est dans les arènes de l'écologie sur LYFM, bien évidemment, à discuter bah, comment constater un petit peu le déficit de notoriété du service civique et comment on pourrait...
De son problème de faire de la pub ?
Ouais, pub, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, le faire mieux connaître.
Ouais, c'est ça.
Oui, parce que Sabine, tu nous disais que malgré tout, une bonne partie des jeunes ne connaissent pas, quoi.
Ben, c'est vrai que ben, moi, je fais partie de la génération Z, et personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais plus d'infos et je voyais plus de publicité, de communication, on va dire, sur le service militaire. Que le service civique. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai problème d'impact et d'influence dans le sens où je pense qu'il y a une mauvaise communication sur le service civique. On n'en parle peut-être pas assez, ou alors on en parle à la mauvaise cible, on en parle peut-être pas dans les bons endroits, dans les bons... Enfin, comment dire ? C'est vrai que moi, je suis en école de commerce et typiquement, on pourrait avoir l'info via les BDE, donc les bureaux des étudiants, mais on n'en parle jamais. En fait, on parle seulement des soirées BDE, qu'on va se la foutre pendant une soirée, et voilà quoi. Mais c'est vrai, on ne parle jamais d'écologie, alors que c'est super important. Nous, on est dans une génération où on fait hyper attention à ce qu'on achète, à ce qu'on mange, voilà, c'est ça. Donc, et puis même sur les entreprises qui font typiquement du greenwashing, on fait hyper attention, en fait, sur l'image de l'entreprise, etc. Donc,
bon, on sent la marketeuse là, qui est en train d'essayer de vous faire un plan de com', les gars. Bah, pourquoi pas ? Peut-être c'est ce qui manque. Hein. Parce qu'effectivement, pour une fois que tu as cliqué sur service militaire, tu vas rechoper que des flashs, des clips de militaires. Si tu n'as pas scrollé un service civique, et ben t'en verras jamais quoi.
Ouais, complètement. Moi, je suis complètement d'accord. Le service civique, je suis allé à lui, mais il est jamais venu à moi. Quand je cherchais quoi faire, parce que du coup, moi, je l'ai fait quand je me suis réorienté. Donc, j'avais 6 mois de libre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher les possibilités que j'avais, mais je me suis jamais dit. Enfin, avant ça, j'avais pas du tout conscience de l'existence de ce service civique là. Et c'est quand j'ai commencé à faire des recherches sur les dispositifs qui étaient mis en place que j'ai trouvé. Mais donc, du coup, c'est là où on voit. Enfin, même les gens qui ont la possibilité de le faire ou le temps parfois ont même pas l'information, et je pense que c'est un problème aussi, c'est le fait que l'info ne circule pas.
Alors il nous reste une minute les gars, les filles maintenant, mais vous savez que dans les arènes de l'écologie on fait toujours un petit peu de tambouille parce que les conversations nous donnent des idées, et bien je vais vous on va lancer une semaine spéciale association au mois de juin. Entre la semaine 27, entre le lundi 29 juin, me semble-t-il, et puis le dimanche 5 juillet, j'ai pas fait les calculs et j'ai oublié mes notes, sur le monde associatif. Est-ce que ce serait pas l'occasion pour les associations de se manifester, et nous, on vous ouvre une émission à part entière sur, pour faire une com service civique. En plus, vous avez une excellente marketeuse ici, qui va vous aider à faire un plan de com' pour inonder les réseaux sociaux, dire à Musk d'arrêter ses bêtises et de parler de service civique, quoi.
Allez. Hein ? On va faire le plan France Service Civique.
Voilà, bon, donc on donne rendez-vous, puis ben là, je vois que l'échéance est arrivée, il est 19h58, et vous savez que maintenant, dans les émissions sur Radio Aligre, on fait des émissions de 58 minutes. On nous l'a dit, répété. Eh bien, je vous remercie tous, Eric, Clément, Mathéo, Sony, et puis Ben, et puis Sabine, qui fait son entrée dans le studio, et puis Armand, naturellement, qui a brillé pour son excellente régie, et puis pour son choix musical, puisque maintenant, c'est devenu notre directeur artistique, et on le remercie grandement. On l'applaudit bien fort, et à la semaine prochaine. We'll be right back.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.